Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Artry. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Les vies des hommes illustres », tome 2, rassemble une partie majeure des biographies parallèles de Plutarque, auteur grec de l'époque impériale romaine. Il ne propose pas une histoire continue de la Grèce et de Rome, mais des portraits moraux et politiques d'acteurs dont les décisions ont marqué leur cité. Sa méthode consiste le plus souvent à rapprocher un grec et un romain, puis à examiner leurs ressemblances et leurs écarts. Ce volume comprend notamment les figures d'Alexandre et de César, de Démosthène et de Cicéron, ainsi que des vies qui ne relèvent pas toutes du dispositif comparatif. Les récits mêlent événements publics, traits de caractère, paroles rapportées et épisodes domestiques, afin de discerner comment se forme la grandeur, l'ambition, la prudence ou la démesure. La finalité est moins documentaire au sens moderne que réflexive. Plutarque utilise des existences célèbres pour interroger les responsabilités du pouvoir et les effets durables des dispositions individuelles sur la vie collective. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, la biographie comparée comme instrument de jugement moral. La forme des vies parallèles distingue profondément Plutarque des chroniqueurs qui suivent simplement la succession des guerres, des lois et des règnes. Le rapprochement entre un grec et un romain crée un cadre de lecture. Les deux hommes ne sont pas seulement célèbres. Ils deviennent des cas comparables par leur fonction, leur ambition, leur éloquence ou leur rapport au commandement. Alexandre et César offrent ainsi deux modèles de conquérants dont la puissance militaire ne peut être séparée de leur tempérament. Démosthène et Cicéron permettent, quant à eux, d'observer la place de la parole dans des cités traversées par les crises politiques. La comparaison ne vise pas à établir un palmarès national. Elle fait apparaître que des institutions différentes exposent les individus à des choix analogues: résister à une domination, mobiliser un peuple, gouverner des alliés ou préserver sa réputation. Les rapprochements finaux, lorsqu'ils accompagnent les deux vies, condensent ce travail en distinguant les traits réellement décisifs. Cette méthode oblige le lecteur à considérer les contradictions d'une personnalité plutôt qu'à réduire une carrière à une victoire ou à une défaite. Elle fait également des vies romaines et grecques une enquête commune sur les formes antiques de la responsabilité publique. Deuxièmement, Alexandre et César, la conquête soumise à l'examen du caractère. Les vies d'Alexandre et de César constituent un centre de gravité du volume parce qu'elles associent l'expansion militaire à la question des limites personnelles du chef. Plutarque ne sépare jamais entièrement les campagnes de la manière dont un dirigeant traite ses proches, ses adversaires, ses soldats et les populations soumises. La conquête apparaît donc comme un révélateur de caractère, non comme un simple relevé stratégique. Chez Alexandre, l'ampleur exceptionnelle de l'entreprise rend particulièrement visible la tension entre générosité, désir de gloire et emportement. Chez César, l'intelligence politique, la capacité de décision et la clémence souvent mise en avant ne suppriment pas les effets institutionnels de son ascension. Le lecteur est ainsi conduit à mesurer le coût civique de l'excellence individuelle lorsqu'elle devient trop dominante. Plutarque reconnaît l'énergie, le courage et le talent d'organisation des grands hommes, mais il refuse de les traiter comme des justifications suffisantes. Les épisodes privés et les réactions au revers importent parce qu'ils révèlent l'usage qu'un homme fait de sa puissance. Cette perspective évite aussi bien la célébration héroïque que la condamnation uniforme. Elle montre comment une vertu active peut être déformée par la rivalité, la colère ou une ambition qui ne rencontre plus de frein politique. Troisièmement, Démosthène et Cicéron, les pouvoirs et les fragilités de l'éloquence. Le parallèle entre Démosthène et Cicéron place l'éloquence au cœur de la vie politique. Dans les deux cas, la parole publique ne constitue pas un ornement intellectuel, elle est une manière d'influencer l'assemblée, de défendre une ligne politique et de construire une autorité dans des régimes où le débat compte. Plutarque s'intéresse toutefois autant à la conduite des orateurs qu'à leur maîtrise du discours. L'éloquence peut exprimer le courage civique lorsqu'elle avertit une communauté d'un danger ou soutient une cause difficile. Elle peut aussi accroître la dépendance envers la faveur populaire, la rivalité personnelle et les retournements de fortune. Les parcours de Démosthène et de Cicéron rendent sensible la vulnérabilité de l'homme de parole face à la violence politique. Un discours remarquable ne garantit ni la cohésion de la cité ni la sécurité de celui qu'il prononce. Cette limite donne au portrait sa portée critique. L'intelligence rhétorique ne remplace pas la constance, le jugement pratique et la capacité à agir dans une situation instable. Le rapprochement éclaire également les différences entre Athènes et Rome sans les isoler dans une opposition abstraite. Chez Plutarque, les institutions déterminent les occasions de parler et d'agir, mais les choix individuels restent exposés à une appréciation morale. Quatrièmement, les vies non parallèles et la diversité des expériences politiques. Le tome 2 ne se limite pas à des couples rigoureusement construits. Des biographies telles que celles d'Artaxerxès, d'Aratos, de Galba ou d'Othon élargissent l'horizon de l'ouvrage et rappellent que la réflexion de Plutarque ne dépend pas exclusivement de la symétrie gréco-romaine. Ces récits offrent des situations politiques variées: monarchie perse, vie civique grecque, compétition romaine pour le pouvoir impérial. Leur présence empêche de lire les vies comme une galerie réservée aux seuls vainqueurs, les plus prestigieux. Plutarque y observe aussi les effets de la succession des factions de la guerre civile et de la précarité du commandement. La carrière publique n'y est jamais entièrement gouvernée par le mérite personnel. Les alliances, les héritages institutionnels, les contraintes militaires et les décisions de l'entourage modifient constamment les possibilités d'action. Pourtant, ces conditions ne dispensent pas les acteurs de toute responsabilité. Les qualités et les défauts demeurent visibles dans la façon de supporter le danger, de traiter les concurrents ou de répondre à une crise. Cette pluralité de cadres politiques est précieuse pour comprendre l'ambition de Plutarque. Il ne cherche pas à fournir une règle unique de gouvernement, mais à montrer comment le jugement moral doit s'exercer dans des contextes historiques concrètement différents. En dernier lieu, une histoire des mœurs plutôt qu'une histoire événementielle exhaustive. Plutarque avertit par sa pratique même que son intérêt principal porte sur les signes du caractère. Un geste, une réaction à l'insulte, une manière de recevoir un ami ou de supporter l'échec peuvent lui paraître plus instructifs qu'une longue description de bataille. Ce choix ne signifie pas que les grands événements soient négligés. Ils fournissent le cadre indispensable des vies, mais ils sont sélectionnés et organisés pour éclairer les dispositions morales qui orientent les décisions. Le lecteur doit donc aborder le livre autrement qu'un manuel historique moderne. Les récits ont une forte valeur documentaire sur les représentations antiques de la gloire, du courage, de la maîtrise de soi et du devoir civique, tout en portant la marque des sources et du projet éthique de leur auteur. Les anecdotes ne sont pas de simples curiosités, elles servent à rapprocher le visible et le politique, la conduite quotidienne et le destin d'une cité. Cette écriture explique la postérité durable des vies. Elle fournit des figures historiques mémorables sans prétendre que leur renommée les rende irréprochables. La grandeur y est toujours ambiguë, car elle peut élever une communauté ou la mettre en péril. Cette tension donne au volume une densité que ne possède pas une biographie purement admirative ou une simple compilation de faits. En conclusion, ce tome conviendra au lecteur attiré par l'Antiquité grecque et romaine, par l'histoire politique et par la biographie comme forme de réflexion. Il est particulièrement utile à ceux qui souhaitent aborder Alexandre, César, Démosthène ou Cicéron, au-delà des images simplifiées du conquérant, du dictateur ou de l'orateur. La lecture demande une certaine attention, car Plutarque avance par épisodes, digressions et appréciations de caractère, plutôt que par synthèse chronologique continue. Cet effort est récompensé par une compréhension plus fine des liens entre ambition personnelle, institution civique, éloquence et exercice de la force. Le livre permet aussi de saisir les valeurs auxquelles un auteur antique soumet les puissants modération, fidélité, courage, sens du bien commun et maîtrise des passions. Par rapport à une biographie moderne, son originalité tient à la comparaison systématique et à son usage moral des détails de conduite. Par rapport à une histoire générale, il se distingue par son attention au tempérament, aux relations privées et aux choix singuliers. Les vies non parallèles complètent en outre le tableau en ouvrant l'enquête à des régimes et à des crises politiques divers. Cette édition reste donc moins un recueil de célébrations qu'un laboratoire de jugement historique et éthique, où la célébrité devient matière à examiner les effets humains du pouvoir. Si vous souhaitez soutenir Plutarque, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.